RCF. Dans les évangiles synoptiques, nous voyons à plusieurs reprises Jésus se retirer dans un endroit désert pour prier Dieu. Dans l'évangile de Jean, que nous lisons ce dimanche, c'est comme si nous rentrions dans l'intimité de cette relation d'amour en écoutant les mots mêmes que le Fils adresse à son Père. Jésus parle à celui qui l'a envoyé pour lui confier ses amis disciples qui, comme lui, ont besoin de sa force et de son souffle pour traverser le tragique de l'existence. Pour parler de cette grande prière qui prend en elle l'humanité tout entière, je reçois Jean-Pierre Lémonon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Valence, bibliste, historien. Nous commençons par écouter la parole, que nous commenterons ensuite. C'est chez Jean, chapitre 17, versets 11b à 19.
Les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. « Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité.
Jean-Pierre Lémonon, ces deux derniers dimanches, nous étions dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, où il est question de la vigne. Et ici, nous sommes au chapitre 17. Dans quel contexte sont prononcées les paroles que nous venons d'entendre ?
Eh bien, vous savez qu'à partir du chapitre 13 de l'évangile selon Jean, Jésus est à Jérusalem. Et on peut dire qu'on est là sur quelques jours avant sa passion. Jésus lave les pieds à ses disciples, prononce deux discours d'adieu. Dans le fond, il donne son testament. Et à la fin du deuxième discours d'adieu, c'est-à-dire à la fin du chapitre 16, il y a une rupture, puisqu'il est dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Jésus rentre dans une prière qui, à la différence, très souvent dans les synoptiques, on mentionne notamment dans Luc que Jésus prie, mais il prie en se retirant sur la montagne ou dans un lieu désert. Là, dans le fond, il prie en présence de ses disciples avant d'entrer dans la passion. Et toute cette prière va être orientée vers la séparation et la présence de Jésus. Une tension, Jésus va se séparer des siens, et pourtant, il est toujours là.
Une tension entre le Jésus terrestre et le Jésus ressuscité. Puisque, on l'a déjà dit dans cette émission à de nombreuses reprises, mais l'évangile de Jean, il est écrit, comme les autres évangiles, bien des années après la résurrection. Il y a à la fois le Jésus de l'histoire et puis le Jésus intemporel.
Oui, on pourrait dire presque cela. C'est-à-dire, c'est la rencontre du temps et de l'éternité. Je crois qu'il n'y a pas d'autre définition à dire. Si vous regardez de très près là le texte que nous avons entendu, il est dit par exemple au verset 11, « Je viens vers toi, Père Saint ». Il est encore là, mais en même temps, nous avons beaucoup d'autres éléments qui montrent qu'on est dans un autre monde. Par exemple, « Je leur ai donné ta parole, c'est terminé. Ils ont été glorifiés en moi, je suis glorifié en eux ». À la fois, on pourrait relever de manière très précise tous les éléments qui nous montrent qu'on est bien dans le Jésus terrestre, c'est bien Jésus qui parle, et en même temps, les éléments qui montrent qu'il est déjà ailleurs. Et je crois que la synthèse, c'est de dire Jésus est présent à ses disciples en s'appuyant sur tout ce temps qu'ils ont vécu avec lui. C'est-à-dire, c'est vraiment un texte d'après Pâques. Et si on fait une analyse très précise, on se rend compte quand même très vite qu'il y a des éléments dans ce texte qui viennent de Jésus, on pourrait dire, de Jésus de Nazareth, mais c'est quand même une longue méditation de Jean sur comment Jésus est-il encore présent aux siens alors qu'il n'est plus dans ce monde.
Jean-Pierre Lémonon, lisons avec vous cet évangile qui démarre au verset 11 du chapitre 17. « Les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi, Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. » Il est mentionné que Jésus prie en levant les yeux au ciel. Ça signifie la dimension invisible de l'existence ?
Oui, ça signifie surtout que tout ce que fait Jésus, il le fait en communion avec le Père. Et là, notamment, c'est le dernier acte d'obéissance, on pourrait dire. Les disciples ont été remis par le Père à Jésus, et Jésus ne les abandonne pas.
Jésus appelle le Dieu d'Israël Père. Alors, est-ce que c'était une nouveauté ou pas ? On retrouve ça beaucoup dans Jean, hein ?
Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut voir beaucoup de nuances pour bien voir la richesse de ce terme de Père. D'abord, dans l'Ancien Testament, on a tout à fait conscience, et ça revient souvent, que Israël est le fils premier-né, le peuple qui est le fils de Dieu. Puis, on va le particulariser par la figure du roi. Le roi est fils de Dieu. Et peu à peu, en approchant de l'ère chrétienne, le sage, l'homme juste, devient aussi le fils de Dieu. Voilà. Ça, c'est Israël, la tradition juive, connaît cette idée de la paternité de Dieu vis-à-vis du peuple, vis-à-vis du roi et vis-à-vis du juste.
Mais alors avec Jean, là, qu'est-ce qui change ?
Alors, avec Jean, ce qui est nouveau, c'est cette interpellation « Père ». Et derrière, on ne peut s'empêcher de reconnaître une forme, surtout dans cet aspect très intimiste, très lié, on ne peut s'empêcher de reconnaître le « Abba » que l'on trouve dans Marc au chapitre 14, quand Jésus est en agonie et qu'il dit « Abba, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi ».
Qui veut dire papa,
c'est-à-dire seul le fils peut parler de son père en disant « Abba ». Quand on parle du père d'un autre, on n'emploie pas le mot « Abba », on emploie le mot « Av ». Et si Jésus ne l'avait pas lui-même employé, on ne voit pas comment ses disciples auraient pu se permettre une telle familiarité avec Dieu. C'est vraiment presque le père sur lequel on dit « papa » en lui tapant sur l'épaule. C'est une proximité extraordinaire. Alors, ce pater nous évoque aussi ce père plein de tendresse que l'on trouve dans tout l'enseignement de Jésus.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Jean-Pierre Lémonon, il est question du nom. Garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Qu'est-ce que ça signifie, cette référence au nom ?
Alors, en hébreu, c'est Hachem. C'est-à-dire que ça peut signifier, en hébreu, au lieu de nommer Dieu, puisqu'on ne le nomme jamais. Dans la tradition d'Israël, on dit Adonai, c'est-à-dire le Seigneur. Et un nom aussi pour désigner Dieu, c'est le nom. Le nom par excellence.
Le nom donc qu'on ne prononce pas, mais on dit le nom.
Le nom, simplement, mais tout le monde sait qu'il s'agit de Dieu.
Alors garder dans le nom, veut dire quoi ?
Ce qui est d'abord la chose qui est assez curieuse, c'est que Jésus dit « le nom que tu m'as donné ». Ça veut dire simplement la communion très forte entre Jésus et le Père. Le Père a communiqué à Jésus, véritablement, on pourrait dire, son essence. Et c'est dans ce nom, dans cette intimité, que les disciples doivent être gardés. Et donc, le nom qui a été donné à Jésus, cette intimité, Jésus la souhaite aussi pour ses disciples.
Mais qu'est-ce que ça veut dire être un entre le Père et le Fils? C'est quoi? C'est de la collusion, de la fusion? C'est quoi exactement être un?
Alors, être un, tel que le présente Jésus, c'est que le Fils est totalement obéissant au dessein d'amour, de salut du Père.
Suivre complètement ce qu'on appelle la volonté du Père.
Voilà, exactement. Ce n'est pas du tout une espèce de fusion, comme si le Père et le Fils ne faisaient qu'un. Mais c'est véritablement une communion, et cette communion se manifeste par l'obéissance parfaite du Fils à la volonté du Père.
En liberté.
En toute liberté, bien sûr.
Jean-Pierre Lémonon, continuons à commenter l'évangile de ce dimanche, chez Jean, chapitre 17, versets 11b à 19. Jésus est en train de s'adresser à son Père. « Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. » Donc Jésus dit qu'il a veillé là, sur ses disciples,
oui,
sur ses amis.
Il a veillé sur ceux que le Père lui a confiés, et ils sont quand même toujours au Père, c'est ça. Si Jésus s'adresse au Père pour confier ses disciples, c'est parce qu'ils sont toujours les fils du Père.
Alors, ils le sont en essence, c'est-à-dire tout homme l'est déjà?
Ah non, c'est là je crois qu'il faut le prendre vraiment sur les disciples que Jésus a rassemblés. Et jusque-là, il était là et il les a protégés pour qu'ils restent dans la fidélité.
Mais alors ce fameux Judas qui vient de trahir, il parle des Écritures qui s'accomplissent. Alors est-ce qu'il faut comprendre ici que tout était imaginé d'avance, tout était calculé d'avance, tout était écrit d'avance?
Non.
Comment le comprendre ça?
Il faut plutôt voir le mouvement qu'on fait, il faut partir de là je crois, le mouvement qu'ont fait les premiers chrétiens. La figure de Judas reste une figure énigmatique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va relire l'Écriture, et Jésus déjà lui-même a fait ce mouvement. On relit l'Écriture et on voit que dans les psaumes est annoncée la trahison de l'ami. Judas devient celui qui était annoncé dans les psaumes comme le traître. C'est un phénomène de relecture. Étant donné ce qui s'est passé et qui vous déstabilise, on va retrouver un petit peu d'équilibre en relisant la tradition d'Israël.
C'est ce qu'ont fait les premiers apôtres après la résurrection,
à
relire.
Et on peut même dire que c'est ce que Jésus déjà a fait. Jésus, dans de nombreuses circonstances, n'a fait que renvoyer à la tradition d'Israël quand on était surpris de son comportement.
Il est question de perdition. Se perdre, qu'est-ce que ça veut dire?
Se perdre, c'est-à-dire celui qui n'a pas répondu à l'appel et qui surtout n'est pas demeuré dans la fidélité. Mais je crois qu'il ne faut pas voir du tout là un espèce de déterminisme. Vous voyez, il y aurait de tout temps, Judas était destiné,
celui qui devait trahir.
À trahir. Je crois qu'il faut bien se dire que Jésus a eu la surprise de voir que l'un des siens, après l'avoir suivi, l'a trahi. Et pour lui, la seule possibilité, on pourrait dire de consolation, de réconfort, c'est de relire ce psaume qui dit, expérience humaine, que souvent l'ami trahit. Et du coup, on en fait une référence clé.
Jean-Pierre Lémonon, Jésus continue à parler à son Père. « Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde » pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Il est dit que Jésus vient vers le Père, c'est un retour au Père, dans Jean?
Dans Jean, oui, on peut dire, puisque, si vous voulez, la phrase qui me semble clé dans Jean, c'est « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Et donc, le Fils retourne dans la pleine communion avec le Père. La grande différence, c'est que les disciples sont encore dans le monde et Jésus n'est plus dans le monde. Mais ils ont un point commun, c'est que les disciples, tout comme Jésus, ne sont pas du monde.
Alors justement, cette question du monde, il y a deux interprétations du monde. Hein. Là, c'est un terme qui revient 78 fois dans l'évangile de Jean. Ici, là, dans ce verset-là, qu'est-ce que ça signifie le monde?
Au 1er siècle, la littérature apocalyptique, c'est-à-dire la littérature de révélation et de consolation, car toute la littérature apocalyptique, que ce soit Enoch, que ce soit le livre syriaque de Baruch, c'est d'abord une littérature de consolation dans un moment difficile. Et là, on met en opposition deux mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas, le monde présent et le monde à venir. Donc, c'est sur cette toile de fond très large qu'il faut comprendre ces mentions du monde. Jésus n'est plus dans ce monde, n'est plus dans l'humanité. Les disciples y sont toujours. Mais fondamentalement, Jésus comme les disciples appartiennent à un autre monde, le monde d'en haut, c'est-à-dire le monde de Dieu.
Oui, et qui n'est pas spatialisé là-haut. C'est un monde intérieur, le monde de l'intériorité où on choisit de suivre le Christ.
On ne peut prendre que des images. Quand on parle évidemment d'en haut, on ne veut pas dire que Dieu est en haut. On prend des images et cette opposition est très forte. Alors, le monde a beaucoup d'importance dans Jean et a plusieurs sens. Il y a, on pourrait dire, l'humanité que Dieu aime. Il y a un autre monde qui est le monde de l'expérience, on pourrait dire, et qui est le monde du mal, qui est très présent. C'est ce monde qui ne veut plus de Jésus. Si on se tourne vers Paul, l'équivalent, c'est la sarx, c'est-à-dire la chair. La chair qui dit un monde de péché. Donc, les disciples n'appartiennent pas à ce monde de péché comme Jésus n'y appartient pas. Mais ils sont dans ce monde où Jésus demande que le Père les protège. Car dans le texte que nous lisons, il y a dans le fond deux demandes. Il y a une demande de protection, et puis ensuite il y a une demande de sanctification.
C'est quoi la sanctification ?
Alors la sanctification, d'abord, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le texte est bien traduit ? En grec, c'est le mot « agiazein » et qui a parfois été traduit par « consacré ». Or, « consacré » signifie une députation à une tâche précise.
Par exemple, un prêtre.
Voilà. Et vous savez que depuis le XVIIe siècle, cette prière a souvent été appelée la prière sacerdotale. C'est depuis les années 1950 qu'on laisse tomber dans les titres des passages le sacerdotal. Parce que ce n'est pas une prière sacerdotale. Ça réduirait le Christ au rôle de grand prêtre, comme dans l'épître aux Hébreux. C'est beaucoup plus. C'est une prière de sanctification, on pourrait dire, c'est-à-dire qui présente le Christ comme celui qui est totalement fidèle au Père.
Être saint, c'est ça. C'est pas partagé. C'est-à-dire qu'on n'est pas partagé d'un côté ou de l'autre, mais on va dans une direction. Et là, c'est le lien au Père qui est saint.
Tout à fait. On va dans l'obéissance. Jésus se sanctifie par l'obéissance. Et il demande au Père que ses disciples prennent la même voie.
Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Jean-Pierre Lémonon, il est question de joie. Pour qu'ils aient ma joie en eux, dit Jésus au sujet de ses disciples. Qu'est-ce que vous diriez sur cette joie donnée ?
On l'a déjà trouvé, c'est un souci de Jésus au chapitre 15. Il veut que ses disciples soient dans la joie. Dans la protection que le Christ demande au Père, il faut que ses disciples, dans des conditions difficiles où ils vont être, dans ce monde difficile et qui est opposé à Dieu, il faut qu'il soit plein de joie qui ne peut venir que de Dieu lui-même.
D'autant plus que c'est difficile, puisqu'on trouve dans le texte juste après, « Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. » Donc le monde dont il s'agit ici, c'est ce monde...
C'est ce monde pécheur. Si vous voulez, à ce monde pécheur s'oppose... le monde selon la parole. Et c'est parce que les disciples ont reçu la parole de Jésus qu'ils ont été pris en haine par le monde.
Donc la parole de Jésus, qui est la parole du Père, transforme le disciple à tel point qu'il va remettre en cause la loi du monde, entre guillemets,
du monde pécheur. Du monde replié sur lui-même.
Et c'est pour ça qu'il est attaqué.
Tout à fait. C'est à cause de la parole. Et c'est pour cela qu'il faut les protéger. C'est parce qu'ils ont choisi la parole et ce mode de vie selon la parole que le monde les prend en haine. Et donc, ça légitime le fait que Jésus demande au Père de les protéger. Ils sont bien toujours au Père puisqu'ils suivent la parole.
Alors, de les protéger, mais de ne pas les retirer du monde, puisque Jésus
absolument
dit
pas.
Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais.
Tout à fait.
Donc, l'humanité est aimée par Dieu, tous les hommes sont aimés, ce monde est aimé, mais est traversé en même temps
de courants qui sont opposés. C'est le rôle du mal, de l'adversaire.
Alors justement, le mauvais, faut le traduire par l'adversaire, le diable.
Dans Saint Jean, il y a dans le fond, il y a plusieurs termes qui viennent plus ou moins souvent. Le mauvais, comme ici, il y a l'adversaire, il y a le Satan, il y a aussi le diviseur, le diable. Le monde est du côté de ces figures et cède à ces tentations.
Jésus poursuit, en parlant de ses disciples, « Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. » Donc, le sanctifie-les rejoint les propos que vous avez dit sur la sanctification, parfois traduite par consécration, mais là, c'est beaucoup plus large.
Ah, c'est bien plus large.
Que la consécration, par exemple, sacerdotale.
Tout à fait. La consécration, c'est la députation à une tâche précise.
Et donc, tout le monde peut être avoir sa tâche dans le royaume de Dieu. Tout le monde peut avoir une mission.
Mais tandis que là, c'est véritablement la volonté de communion profonde dans la vérité, alors qui est aussi...
Alors, ça veut dire quoi ce mot vérité ?
Dans Saint Jean, la vérité, c'est Jésus.
C'est une personne.
C'est une personne. Mais en même temps, ça prend beaucoup de forme parce que Jésus vient pour rendre témoignage à la vérité. C'est-à-dire, dans le fond, à ce qu'il est devant Pilate, Pilate va dire « Qu'est-ce que la vérité ?» Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est-à-dire à une manière d'être que j'incarne. C'est Jésus qui est la vérité.
Lisons avec vous, Jean-Pierre Lémonon, la fin de notre passage. « De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. » Donc le disciple est envoyé aux autres, à l'humanité tout entière, qui est aimée du Père.
Exactement. Dans ce passage que nous venons de lire, le monde a plusieurs sens. Là, je ne crois pas du tout qu'il faut le prendre d'abord dans un sens négatif. Les disciples sont envoyés dans l'humanité comme le Père a envoyé le Fils dans l'humanité parce qu'il aime cette humanité, parce qu'il aime ce monde.
Donc c'est une Église en sortie qui doit aimer l'humanité qu'elle rencontre. Il n'y a pas une bipartition entre les bons et les mauvais.
Absolument pas. Vous avez tout à fait raison, c'est une Église en sortie, une invitation. Comme Jésus s'est comporté, les disciples doivent se comporter. Car il ne faut jamais oublier que dans Jean, notamment, il y a une expression sur laquelle on n'est pas revenu et qui est très importante. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce « comme » est très fort, ça ne veut pas dire simplement « imitez-moi », mais ça veut dire « je vous donne la force de réaliser ce que je demande ». Saint Augustin, dans un tout autre contexte, résumera ça en disant « Dieu ne demande que ce qu'il nous donne la capacité de réaliser. Il nous donne la force de réaliser ce qu'il commande. » Et là, le « comme » dans Jean est très fort parce que les disciples doivent être unis comme Jésus et le Père sont unis. La communion de Jésus et du Père doit découler sur les disciples. Ils n'ont pas à imiter l'union, ça serait d'ailleurs irréalisable. Mais elle doit avoir des effets sur les disciples à un point tel qu'ils sont dans la vérité, c'est-à-dire eux-mêmes dans la communion avec Jésus qui est la vérité.
Jean-Pierre Lémonon, nous avons pris le temps de regarder attentivement ce texte. C'est très dense, Jean. Quand on écoute ça à la messe ou au culte, on se dit « mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ?»
Surtout ce passage.
Qu'est-ce que vous diriez de l'actualité de ce texte ? En quoi est-il une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, de manière assez synthétique ?
Il est une bonne nouvelle, premièrement, parce qu'il nous assure que Jésus n'étant plus présents dans ce monde, il y a une protection qui nous est toujours assurée.
Il prie pour nous.
Il prie pour nous, il continue de prier pour nous, et par là, il nous protège. Le deuxième point, c'est que nous sommes appelés à une tâche extrêmement importante dans un monde difficile, être persuadés que nous pouvons être en communion avec le Père et le Fils, et c'est de là que vient la force. Ce n'est pas dans nos stratégies que réside l'annonce de la parole, mais c'est d'abord cette certitude que nous sommes emportés dans cette unité du Père et du Fils pour un monde un.
Grâce à l'Esprit, c'est vrai que l'Esprit n'est pas apparu dans le texte. Hein.
Tout à fait. Alors je crois qu'on pourrait dire que l'Église en sortie, c'est l'Église qui certes s'appuie sur la parole du Christ, mais qui se laisse emporter par l'Esprit, et peut-être dans des lieux inédits.
Quand vous avez fait allusion aux stratégies, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça n'est pas d'abord des stratégies de témoigner.
Alors, ce que je veux dire, c'est une chose tout à fait simple. C'est qu'on peut avoir des stratégies tout à fait légitimes, à condition qu'on n'oublie pas que ce n'est pas de là que vient notre force. Quand nous comptons que sur les stratégies, nous sommes du côté du monde. Nous ne sommes pas du côté du monde si nous sommes persuadés que le souffle vient de l'Esprit qui nous met en pleine communion avec le Père et le Fils.
Il n'y a pas de risque pour le disciple de se couper du monde pour vivre sa spiritualité, pour vivre sa foi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent le monde est difficile, comment on va faire, comment on va réussir à continuer à être chrétien, par exemple.
Il ne peut pas y avoir de coupure, puisque c'est là où nous sommes envoyés avec la force de l'union, de la communion du Père et du Fils. J'évite d'employer le mot esprit là, étant donné qu'il n'est pas dans le texte. Mais en fait, ce que produit la communion du Père et du Fils, c'est l'esprit. Puisque l'esprit, c'est ce qui lie le lien d'amour entre le Père et le Fils.
On termine avec la joie. Qu'est-ce que vous diriez? On est dans un monde difficile. La joie, la fragile joie, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Qu'est-ce que vous diriez là de ce mot, ce petit mot de joie qui est présent dans ce texte?
Oui, je vous dirais que, étant donné que j'accompagne l'équipe de l'aumônerie du centre hospitalier de Valence, il m'arrive notamment quand je donne le sacrement des
malades,
je suis étonné de voir parfois des personnes qui sont pleines de joie. Une joie évidemment intérieure et qui leur vient de cette confiance dans l'amour de Dieu.
Merci à vous Jean-Pierre Lémonon. L'évangile que nous avons lu est à retrouver chez Jean au chapitre 17, versets 11b à 19. Je signale que votre dernier livre s'intitule « Pour lire l'évangile selon Saint Jean ». Il est paru aux éditions du Cerf. Merci à Mathieu Charel à la technique.